Sophie Durocher. Entendez les dessous de sa dernière chronique. Cube Radio.
Alors, imaginez si au Québec, tous les médias, enfin vraiment un ensemble de médias, le Journal de Montréal, le Journal de Québec, Le Devoir, La Presse, L'Actualité, Châtelaine, si tous ces médias-là se mettaient ensemble pour publier une même lettre pour défendre la liberté d'expression, ben c'est ce qui vient à peu près de se passer en France. Donc, vraiment une tribune collective qui s'intitule « Ensemble, défendons la liberté ». Tous médias unis pour défendre un principe très simple, la liberté d'expression, la liberté de critiquer. Tout ça, bien sûr, dans la foulée des procès qui se déroulent en ce moment sur les complices des attentats à Charlie Hebdo, 5 ans après le massacre. On va parler de tout ça avec Rachel Binaz. Ben, vous l'entendez souvent sur les ondes de Cube Radio. Elle est française, elle est journaliste indépendante. Elle écrit entre autres pour Marianne, L'Express, Causeur. Bonjour Rachel, comment allez-vous?
Bonjour, très bien, merci.
Écoutez, on regarde ça, nous, du Québec, et on trouve ça très impressionnant, cette lettre, cette tribune collective. Pourquoi c'est si important, cette lettre-là, Rachel?
C'est si important parce que la tribune le souligne. Aujourd'hui, la liberté d'expression n'est plus une liberté totalement acquise sur laquelle on peut se reposer sans craindre qu'elle soit menacée. La situation est de plus en plus compliquée. On le voit à travers les journaux, on le voit également sur les réseaux sociaux. On pourrait également citer ce qui est arrivé à Charlie Hebdo, qui est une histoire particulière. Mais ce qui était considéré comme un droit acquis, en réalité aujourd'hui, est menacé tous les jours. On peut par exemple citer en illustration un exemple qui est revenu justement dans le cadre du procès actuel qui se joue, du procès Charlie Hebdo Montrouge hyper cachère, mais certains patrons de rédaction qui ont été licenciés il y a un certain nombre d'années, dans les années 2006 si je ne me trompe pas, pour avoir publié par exemple les caricatures de Mahomet. Et je parle de rédaction de grands journaux français. Donc c'est quelque chose sur lequel on doit rester particulièrement vigilant.
Oui. Alors, il y a un des passages de cette lettre signée par des dizaines et des dizaines de journalistes et de médias où on dit que un des problèmes avec la liberté d'expression aujourd'hui, une des raisons pour laquelle elle est si réduite, cette liberté d'expression, c'est qu'on nous demande tout le temps, constamment, de respecter la susceptibilité de tout le monde. Parce qu'il faut surtout pas faire de pépène à l'un, à l'autre. Il faut tenir compte du fait que les gens à qui on parle vont peut-être être offensés par ce qu'on écrit ou par ce qu'on dessine ou par ce qu'on publie. Or, ben, elle existe, cette liberté-là d'offenser. Donc, c'est possible que ce qu'on écrit puisse choquer des gens. Mais si on commence à tout le temps se demander « Est-ce que ce que j'écris va choquer quelqu'un? » Ben, on n'écrira plus rien. Il est là, le danger.
On n'écrirait plus du tout, hein. C'est impossible. Et puis c'est pas souhaitable non plus. Un grand écrivain en France, philosophe, dit François Sureau, disait qu'on était devenus les puceaux de la liberté. On n'était pas à l'aise du tout avec cette notion-là. Elle nous faisait peur. Et en effet, aujourd'hui, on entre dans une ère nouvelle qui, d'ailleurs, l'est de moins en moins, hein. C'est un phénomène vraiment qui se normalise avec des gens à l'épiderme particulièrement sensible, qui considèrent que rien ne doit les heurter. Mais dans ce cas-là, en fait, on ne peut plus faire société du tout. Et puis dans ce cas-là, en fait, on vit dans une grotte. Oui. Mais on ne vit pas dans une société démocratique. Le droit de heurter, il est inhérent justement à une société démocratique. Et il faut vivre avec. Ensuite, bien sûr, si on considère que des textes ou des images sont diffamants ou en tout cas vont à l'encontre du droit, et bien il reste les tribunaux pour gérer
ces
choses.
Mais pas la Kalachnikov. Ouais.
Exactement. Et pas non plus les pétitions ou les appels à l'excommunication, comme on peut voir, l'excommunion, comme on peut le voir. Là, le problème, c'est ça. C'est qu'en réalité, on entre dans une nouvelle ère avec une tentation hygiéniste de plus en plus importante où on se dit que rien ne doit heurter personne. Et à force, si vous voulez, ça forme les mentalités, ça rentre dans les consciences et on a ce qui semblait être des espèces de faits divers qui deviennent des faits politiques. politique qui se multiplie et qui ne concerne plus les États-Unis. Ça a traversé l'Atlantique. En France, on observe des conférences qui sont annulées, oui. Des spectacles qui sont interdits, censurés, et des titres de livres également qu'on change.
Oui, c'est ça, mais ça nous inquiète aussi beaucoup au Québec. Donc, quand on regarde ça aller en France, bien sûr, ça nous inquiète, d'où l'importance de ce texte-là. Et il y a un contexte aussi. Il y a le contexte, évidemment, en ce moment, du procès des complices des attentats de Charlie Hebdo, de Montrouge et de l'Hypercacher. Mais il y a aussi cette situation dont on doit absolument parler. C'est cette dame qui est directrice des relations humaines pour Charlie Hebdo, donc elle est sous protection policière depuis 5 ans. Donc c'est dur pour nous d'imaginer ça, mais ça fait 5 ans qu'elle ne peut pas se déplacer sans être accompagnée de policiers français, de gendarmes qui la protègent. Or, au cours des derniers jours, il y a eu des menaces à son égard qui étaient tellement précises et qui étaient tellement pressantes qu'elle a été obligée d'évacuer son domicile en 10 minutes et qu'elle vit maintenant cachée. Et ça se passe aujourd'hui en France, en 2020. Et ça, ça doit être terrifiant quand on travaille dans les médias en France.
Et ça concerne elle, ça concerne plus largement toute l'équipe de Charlie Hebdo. Ce sont des gens qui sont visés, directement visés. On pense par exemple à Rhys, le dessinateur, qui ne peut pas se balader dans la rue avec sa femme. C'est quelque chose qui est impossible. Il a également révélé, poussé par son avocat, que par exemple il avait un projet d'adoption avant 2015 avec sa compagne. Et bien on lui a expliqué que jamais on ne confierait un enfant à des gens comme eux parce qu'ils sont sous protection.
C'est fou! Donc, quelle tristesse, Rachel! Comme c'est triste!
C'est terrible, parce que c'est une espèce de double peine. Elle arrive même par la punition, elle vient même de son propre camp, si je puis dire. Donc ça, c'est une situation, en effet, sur laquelle, en fait, se sont assez peu penchés les journaux, il faut le dire. Vous avez souligné, à juste titre, cette tribune. Mais les journalistes, les médias, ne sont pas exempts de ce genre de reproches. La difficulté à accepter encore le débat civilisé, ça concerne aussi, et d'abord, les journalistes. Il faut pas nous mettre de côté, si je puis dire. Et en effet, aujourd'hui, Charlie Hebdo est le symbole même justement de ces libertés attaquées. Je pense également à ce que disait Fabrice Nicolino qui témoignait, rescapé de l'attentat. Il expliquait qu'il y avait un réseau de gens justement qui s'étaient attaqués à Charlie Hebdo, qui avaient colporté des calomnies et que ils avaient participé, selon lui, à la préparation psychologique de cette affaire. Voilà. Il y avait un terreau, il y avait une atmosphère qui s'était installée, qui perdure encore aujourd'hui, un climat particulier. Ça ne veut pas dire que ces gens-là sont responsables directement de l'horreur, mais on laisse s'installer un climat qui est particulièrement dangereux pour la bonne santé de nos démocraties.
Absolument. Donc, évidemment, dans ce procès, on ne fait pas seulement le procès des complices de l'attentat à Charlie Hebdo, mais aussi des autres attentats qui ont eu dans les jours qui suivent. Et c'est un peu triste, Rachel, qu'on soit constamment en train de dire Charlie Hebdo, oui, mais il y a eu aussi, évidemment, cet attentat absolument terrible à cette épicerie hyper cachère, donc une épicerie juive. C'était un vendredi soir, donc des gens de la communauté se préparaient pour le Shabbat, et Amédie Coulibaly est rentrée dans ce magasin et a tué des gens, 4 personnes, parce qu'elles étaient juives. Et ça, c'est absolument terrifiant parce que au cours des derniers jours, il y a eu donc un récit. Ça a duré pendant 4 heures et 4 minutes. Et les gens qui sont venus témoigner ont fait vraiment un récit des heures d'horreur qu'ils ont vécues.
Ah, c'était terrible comme on a pu l'imaginer et comme eux ont pu le vivre, bien entendu. Ensuite, oui, disons que lorsque les victimes sont juives, l'émotion semble moindre par rapport à d'autres actes. On se dit que quelque part, ça ne visait pas réellement la France, c'était les juifs. Et puis, est-ce que inconsciemment, il n'y a pas une espèce de presque de responsabilité parce qu'il y a ce conflit israélo-palestinien, etc. Et ça n'émeut plus beaucoup. On peut parler parler là de l'hypercacheur, on pourrait parler aussi de l'affaire Mera, hein, dans cette école, cette tuerie absolument atroce à Toulouse, où des petits enfants juifs ont reçu une balle dans la tête. Hein. La mobilisation, bien sûr, n'était pas la même. Ensuite, oui, c'est les actes antisémites, quels qu'ils soient, sont croissants depuis, grosso modo, on va dire l'intifada, depuis 2000. On a des chiffres qui sont absolument incroyables. Alors, il y a bien sûr l'acmé de l'horreur avec la tuerie dans l'école juive ou l'hypercachère, mais il y a aussi cet antisémitisme du quotidien qui fait que il est de plus en plus difficile de scolariser des Français juifs dans des écoles de la République.
C'est fou, ça.
Il y a de moins en moins, voilà, de plus en plus d'écoles dans lesquelles les Français juifs ne sont plus les bienvenus. Pas parce que les enseignants se mobilisent contre, mais parce que leurs petits camarades les attaquent physiquement, verbalement, et il faut donc les changer d'établissement. Ça, c'est quelque chose qui est connu, hein, qui encore une fois a cours, grosso modo, on va dire, depuis la fin des années 90. C'est un phénomène qui est connu. Et dès lors que ce genre de fait est médiatisé, les élus, les politiques font semblant de le découvrir, mais voilà, encore une fois, ça fait plus de 20 ans que ça existe et le phénomène est croissant.
Oui, et moi je me rappellerai toujours, Rachel, parce que quand il y a eu les attentats en janvier 2015, j'avais accompagné mon mari Richard, on était allé à Paris et ce dimanche, le 11 janvier, on a défilé avec des milliers et des milliers de Français dans les rues et évidemment, des formations professionnelles, Richard et moi, on parlait avec plein de gens et la quantité de gens que j'ai entendu ce dimanche-là dire, ben nous, on est juifs et on se sent plus chez nous en France, on va quitter, on va partir en Israël. Et d'ailleurs, un des témoignages, des survivants de cette attaque de l'hypercacher a dit une phrase que je trouve terrible, c'est difficile d'être juif en France, et de se dire que cette phrase-là peut être prononcée 70 ans après les camps de concentration, 70 ans après la Shoah, de se dire qu'en 2020, il y a des gens qui disent c'est dur d'être juif en France, je trouve ça absolument désolant. Rachel, c'est toujours intéressant de vous parler, merci de votre point de vue et merci de nous tenir au courant des débats d'idées qui se font en France. Dieu merci, ça existe encore.
Avec plaisir.
Merci beaucoup, donc, Rachel Binas, journaliste indépendante, Marianne L'Express. Et c'est comme ça que se termine l'émission. Je voudrais remercier Sébastien Laperrière à la mise en onde et à la réalisation. Et aussi, bien sûr, comme toujours, fidèle au poste depuis, 3 ans maintenant, Hugo Veilleux à la recherche. Merci beaucoup d'avoir été là, puis on se retrouve demain.